15h-16h sur Europe 1.
Il n'y en a pas deux comme elle.
Marion Ruggieri.
Bonjour à tous et merci d'écouter Europe 1. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans Il n'y en a pas deux comme elle. De quoi les nouveaux hackers sont-ils capables? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui jusqu'à 16h, alors qu'ils peuvent tout faire. Détourner un drone, votre voiture, un pacemaker, votre portable. Comment procèdent-ils et comment s'en préserver? On y répond avec l'expert en cybersécurité Nicolas Arpagian. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes directeur à l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice, auteur de La Cyberguerre, la guerre numérique a commencé aux éditions Vuibert. Nous rejoindra aussi le journaliste Pierre Aski qui a été la victime d'un hacker et il nous racontera. Et puis comme d'habitude, on attend vos témoignages sur le sujet. Appelez-nous au 3921, le standard est ouvert. Et n'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook ou via Twitter, hashtag P2CE. On écoute vos commentaires et vos questions à la fin de l'émission. On commence, comme d'habitude, cette émission par quelques chiffres. 600 000, c'est le nombre de tentatives de hacking de comptes Facebook chaque jour. Ça me paraît énorme. Il faut dire que 30% des internautes utilisent le même mot de passe sur tous les sites où ils sont inscrits, ce qui est mon cas. 650 000 ménages auraient été victimes d'au moins un débit frauduleux sur un compte en banque en un an. Octobre 1989, c'est la date à laquelle Julian Assange, à l'origine de l'affaire Wikileaks, aurait piraté la NASA qui a vu le mot branleur apparaître sur tous ses écrans. Steve Jobs, patron emblématique d'Apple, a aussi débuté hacker en détournant des standards téléphoniques pour passer ses appels gratuitement. Enfin, 12 ans, c'est l'âge de Wang Zhenghyan, le plus jeune hacker chinois qui a commencé par pirater le système informatique de son école pour récupérer ses notes. On n'est jamais si bien servi. Et pour vous, un hacker, c'est quoi? On écoute vos réactions.
Quelqu'un qui s'introduit dans les systèmes informatiques sans être repéré.
Ils peuvent surveiller chez vous, ils peuvent hacker votre PC, votre webcam, votre télé, votre Xbox.
C'est quelqu'un qui pirate l'informatique tout simplement. Le bon hack, c'est les bons hackers qui vont prévenir qu'il y a des failles de sécurité et pour qu'ils puissent changer et éviter de se faire hacker par des hackers malveillants tout simplement.
Magouille sur internet. Le hacker, c'est ça, pour moi, hein. Puisque des sites très sensibles se sont déjà fait pirater, que ce soit par n'importe qui, y compris Al-Qaïda.
L'hacker, c'est quelque chose de magique, c'est les nouveaux maîtres du monde, c'est quelque chose de phénoménal.
On va dire c'est des pirates de l'informatique, ils dévient la loi, voilà.
Je pense que c'est un vrai danger pour le gouvernement et tout.
Faut pas être parano, mais faut pas non plus être angélique.
C'est-à-dire, on veut les réprimer, mais on les envie en même temps, voilà, je crois.
Et voilà, c'est le paradoxe. Nicolas Arpagian, que peut faire un hacker en 2015? J'ai entendu parler de trucs déments, j'aimerais qu'on commence par un truc simple. Par exemple, est-ce qu'ils peuvent détourner nos téléphones portables? Il paraît que c'est simple comme un coup de fil.
Alors déjà, un téléphone portable, un smartphone, c'est avant tout un petit ordinateur. La seule chose, c'est que vous confiez plein de choses à ce petit ordinateur, c'est-à-dire vous lui confiez votre identité, les numéros de vos contacts,
vos photos,
vous naviguez sur Internet, donc tout ce qui a de la valeur. Donc évidemment, comme ce petit ordinateur, contrairement peut-être celui que vous avez à la maison, au bureau, il n'est pas protégé, il n'a pas d'antivirus pour la majorité d'entre eux. Et donc, effectivement, c'est d'autant plus de risque parce que vous lui confiez beaucoup de choses et vous le protégez très peu. Par contre, un petit élément de sémantique peut-être quand même en amont. Lorsqu'on parle de hacker, l'état d'esprit de ce mot est très particulier. Il ne faut pas y voir forcément une activité illicite. Le hacker, c'est quelqu'un qui a un petit côté bidouille, c'est-à-dire un peu comme celui qui va voir un grille-pain et se dit « Mais mince, comment est-ce que ça marche ? Avec un tournevis, je vais le démonter, je vais comprendre « Ah, c'est une résistance, il y a une grille » et je fais en sorte que de voir comment est-ce qu'il peut être amélioré. »
Vous voulez dire qu'il n'y a pas forcément d'intention de nuire.
C'est
ou
ça.
De...
On n'est pas
bien
forcément
sûr,
dans une intention crapuleuse. En tout cas dans une volonté. C'est quelqu'un, et c'est très positif comme état d'esprit,
vous faites bien le
quelqu'un
préciser.
Qui cherche à comprendre comment ça marche. C'est-à-dire qu'il est moins dans une position d'un utilisateur passif d'une technologie, mais il cherche à chaque fois de se dire, mais après tout, est-ce que j'ai besoin de comprendre? Et ça, c'est très salvateur dans les entreprises, dans les états-majors. On a besoin aussi de cet état d'esprit qui est de dire, comprenons les outils de manière à voir éventuellement s'ils ont fait l'objet de piratage, s'ils ont fait l'objet, peuvent faire l'objet d'amélioration, et au contraire, s'il y a des moyens de perfectionner ces outils.
Bien sûr. Alors, Benjamin Muller nous dira tout à l'heure comment protéger son portable. Vous nous direz s'il a raison. Évidemment, ce qui frappe les esprits, ce sont les détournements parfois très impressionnants. Par exemple, on a vu aux États-Unis des hackers détourner des voitures. La marque Fiat Chrysler a même dû rappeler plus d'un million de modèles parce que on pouvait tout simplement s'emparer d'une voiture garée de l'autre côté de la rue, mais aussi d'une voiture que vous conduisez. Ça, c'est possible.
Bien sûr, parce qu'en fait, ce sont des ordinateurs qui vont centraliser toutes les commandes de la machine. La seule chose chose, comme c'est le cas dans beaucoup de processus industriels de fabrication. On n'a pas mis la sécurité en avant. En clair, on a mis en place des outils de manière à ce qu'ils aient des fonctionnalités, mais sans avoir la précaution. Et c'est vrai que, par exemple, je me souviens même de Volkswagen demandant à des universités de stopper leurs travaux académiques, leurs travaux de recherche, qui permettaient notamment, lorsque vous doubliez une voiture, alors au début c'est amusant de jouer avec les essuie-glaces, d'ouvrir la malle arrière, le coffre, mais effectivement ce sont tous ces éléments qui peuvent être interceptés et donc manipulés par des tiers, et c'est évidemment dangereux.
Alors on recevait ici même quelqu'un il n'y a pas longtemps qui nous disait que la dernière mode c'était court-circuiter un pacemaker, ce qui posait beaucoup de problèmes, notamment quand ce sont des chefs d'État et des personnalités de premier plan qui sont concernées. Ça c'est possible aussi alors?
Oui, parce qu'en fait il y a une petite puce qui va envoyer des informations. C'est pas tellement le fonctionnement intrinsèque du pacemaker, mais c'est qu'il envoie des informations à un médecin, à une centrale médicale, et donc effectivement c'est de leurrer, de tromper la consigne que l'on va donner à cette machine. Là encore, c'est une numérisation de la société. On la voit, vous le voyez avec votre porte de garage, avec tous les équipements de votre foyer qui deviennent de plus en plus interconnectés, le chauffage, la fermeture des volets, et à chaque fois on a négligé le volet sécurité parce que il coûtait et n'était pas immédiatement rentable.
Alors, question toute naturelle, comment s'en préserver?
Alors déjà, s'en préserver, c'est de faire en sorte que lorsqu'il y a la possibilité de se protéger, en clair, par exemple, la connexion Wi-Fi de votre maison, de votre connexion de votre box Internet, faire en sorte que lorsque l'on vous propose de mettre un code d'accès pour le verrouiller, utiliser cette fonctionnalité, c'est certain. Ensuite, il faut varier les mots de passe. Il faut faire en sorte qu'ils soient le plus robuste, c'est-à-dire le plus long possible. Pourquoi ? Parce que si vous allez d'ailleurs sur votre moteur de recherche favori, alors on va prendre Google, c'est 96% de la population française l'utilise, et commencez à taper ces quelques lettres, comment pire, P-I-R, ne finissez même pas votre phrase, vous verrez que le moteur vous propose tout seul comment pirater un compte Facebook, comment pirater un compte Instagram, comment pirater. Et effectivement, on s'aperçoit que dès lors que Google, en l'occurrence, fait ses propositions, c'est que des gens cherchent ces questions-là. Et donc, s'ils les cherchent, c'est qu'évidemment, ils les utilisent.
Anissa le cherchait pendant ce temps-là.
Oui, ça marche bien.
Et ça marche bien. Juste une toute petite question. Est-ce qu'on peut pirater une radio comme Europe 1, là?
Alors, on l'a vu. Alors, on l'a fait avec l'exemple de TV5 Monde.
Oui, on va
TV5
en parler
Monde,
tout à
c'est
l'heure,
une chaîne de télévision. Là, en fait, ça suppose deux choses. D'une part, que le système de messagerie des journalistes de la rédaction soit isolé de l'informatique de la production. Parce qu'en général, la porte d'entrée naturelle, c'est d'envoyer. Et voilà, c'est les mesures de salubrité technique. C'est-à-dire faire en sorte que, en fait, si j'envoie un message contaminé à quelqu'un de la rédaction ou à quelqu'un de l'entreprise, que ça n'arrive pas sur le même ordinateur où se trouvent les systèmes de pilotage de ce qui est crucial pour vous, l'antenne.
Alors, Nicolas Arpajon, vous restez avec nous dans un instant. On va parler d'un exemple qui fait froid dans le dos. C'est celui de Pierre Aski, vous savez, cofondateur du site Rue89, victime d'un hacker. Une mésaventure qu'il n'est pas prêt d'oublier. Elle chante Si jamais j'oublie, c'est Zaz sur Europe 1 et on revient.
Europe 1, 15h, 16h.
Il n'y en a pas deux comme elle.
Qui sont les hackers? Que peuvent-ils faire? Avez-vous peur d'eux? Voilà les questions que l'on se pose cet après-midi sur Europe 1. Avec vous, Marion Ruggieri, et avec vos invités. L'expert en cybersécurité, Nicolas Arpajon, et le journaliste cofondateur du site d'information Rue 89, Pierre Aski. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Alors, Pierre Aski, vous avez été victime d'un hacker qui se fait appeler Ulkan. Est-ce que vous pouvez nous dire qui il est déjà?
Alors, c'est un franco-israélien, il est né à Paris mais il vit désormais en Israël, il s'appelle Grégory Shelly, il revendique tout à visage découvert, ce qui le rend d'ailleurs un peu atypique dans la galaxie des hackers, et c'est surtout un militant pro-israélien de choc, parce qu'il a un casier judiciaire en France, il a participé à des actions violentes au nom de la Ligue de Défense Juive, qui est un groupe d'extrême droite pro-israélien, et ensuite il est parti vivre en Israël. Et il se veut un peu le justicier en ligne de la défense d'Israël. Nous, on a eu affaire à lui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter
un peu par hasard, c'est-à-dire que quand il y a eu la guerre de Gaza l'année dernière, il a commencé à attaquer des sites qui prenaient des positions pro-palestiniennes, des sites français. Et donc ça nous a intéressé, ça a attiré notre attention, et on a fait son portrait sur Rue 89. Et il n'a pas aimé le portrait, et il a attaqué le site. C'est-à-dire
comme
qu'il
l'a fait avec d'autres, le site
voilà.
Avec sur image.
En fait, ou... il fait tomber des sites, nous, ce qu'on dit dans notre jargon, c'est-à-dire que ce sont des attaques massives, sans rentrer dans la technique, où vous multipliez les attaques sur un point précis, ou les requêtes sur un point précis, jusqu'à arriver à saturation. Et là, après, il vous faut plusieurs heures pour redémarrer votre installation. Donc c'est un peu comme ça qu'il procède. Puis il a appelé notre journaliste, l'auteur de l'article, il l'a insulté pendant une heure, il a enregistré toute la conversation, il l'a mise sur YouTube, et ensuite, il s'en est pris à ses parents. parents de notre journaliste. Il les a appelés le soir même en disant « Ici la police, votre fils est mort ». Ça, c'était le premier choc sympathique. Et deux jours après, il a appelé la police et il s'est fait passer pour le père en disant « J'ai tué ma femme et mon fils ». Et à 3h du matin, le GIGN a fait une descente chez les parents en pensant trouver un forcené qui venait de tuer sa famille. Et le père a eu une attaque cardiaque et il est mort après une période dans le coma. Et donc, voilà, ça c'était le début de notre rencontre avec ce hacker. Moi, j'ai écrit,
vous aussi,
j'ai écrit sur le site pour le protester contre tout ça. Et il s'en est pris à moi. Et un soir, c'était un vendredi soir vers minuit, j'ai eu la BAC, les pompiers, etc., qui ont failli donner l'assaut chez moi. Et heureusement, ils ont passé un dernier coup de téléphone et j'ai répondu. Mais tout le quartier avait été bouclé et ils étaient prêts à donner l'assaut. Ils étaient en gilet pare-balles avec leurs armes parce qu'ils s'étaient fait passer pour moi et ils avaient dit, là aussi, que j'avais tué ma femme. Et voilà, c'est sa pratique habituelle. Il appelle ça, lui, des gags. Mais enfin, c'est totalement sinistre. Et je peux vous dire que pour avoir vu les policiers ce soir-là, mobiliser 30 à 40 personnes avec des quarts de pompiers, un quartier bloqué, je peux vous dire qu'ils sont hors d'eux, les policiers, parce que c'est une mobilisation de moyens pour rien qui est absolument scandaleuse.
Et puis vous aussi, accessoirement. Alors, Pieraski, on écoute ce fameux Hulkan qui a accordé une interview à l'émission Complément d'enquête où il expliquait, depuis Israël où il vit, ne pas craindre la justice française.
Dans le pays où je suis, c'est pas quelque chose, forcément, les premières priorités de la police, quelqu'un qui attaque les néo-nazis et les antisionistes, etc. Je pense que, pour l'instant, là où je suis, je me sens bien.
Là où vous êtes, ici en Israël, vous vous sentez un peu dans l'impunité ou quoi ?
Je me sens pas dans l'impunité du tout. Je sais que je peux être extradé, je sais que Israël a des accords avec l'Europe, etc. Maintenant, je pense que, quand même, pour faire extrader quelqu'un, il faut un petit peu plus que des canulars téléphoniques et d'avoir changé quelques pages de site internet.
Vous ne regrettez rien, aucune action ?
Non, je regrette pas du tout mon action.
Nicolas Arpagian, vous êtes spécialiste en cybersécurité. La justice française ne peut rien dans ces cas-là. Alors, on a bien compris, il vit en Israël, il a la double nationalité.
Alors là, en fait, ça n'a rien à voir avec le volet numérique parce que, comme l'a indiqué Pieraski, l'ensemble de la procédure est, comme on dit, documentée. C'est-à-dire qu'on a le mode opératoire, on a l'auteur, on a même la revendication. Donc, il n'y a pas de problème d'imputabilité. On peut vraiment lui attribuer les actes. Après, on est dans la diplomatie judiciaire. C'est-à-dire faire en sorte que la police coopère, la police israélienne coopère, que la justice coopère. Là, c'est plus de presque de la politique davantage. Dès lors, effectivement, on a vu qu'il peut y avoir des visites à l'occasion de visites gouvernementales. Ça peut être un sujet qui est à l'agenda. Mais on n'est plus du tout dans une approche classique de la procédure judiciaire parce que, pour une fois, j'allais dire, toute la chaîne, on connaît la cible, le mode opératoire et l'auteur. Donc c'est vrai que là, c'est tout à fait particulier.
Pieraski, vous avez eu...
Oui, et d'ailleurs, c'est effectivement du domaine politique parce qu'il a fallu une visite de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, en Israël, pour que enfin, la police israélienne bouge. Et au mois de juillet, Hulkan, donc Grégory Shelley, a été mis 3 jours en garde à vue et interrogé, c'est une première, par la police française qui s'est déplacée pour lui poser des questions sur tous ces dossiers. Donc on a une procédure qui est enclenchée. C'est l'élément nouveau par rapport au son que vous avez diffusé, qui est antérieur à cette action. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il sera extradé parce que c'est extrêmement difficile puisqu'il n'y a pas d'accord entre Israël et la France. Mais en tout cas, ça l'a visiblement calmé parce que depuis 3 mois, on n'a plus entendu parler de lui.
Alors avant de parler de cyberguerre avec vous deux, en voilà un qui est une cible idéale pour les hackers. Il va nous expliquer pourquoi. C'est le billet de Benjamin Muller et c'est juste après ça.
Il n'y en a pas deux comme elle.
De 15h à 16h sur Europe 1.
Qui sont les hackers? Comment procèdent-ils? Comment se protéger des hackers? Voilà les questions que l'on se pose jusqu'à 16h avec Marion Ruggieri et ses invités. Et dans un instant, Marion, avec vos invités, nous parlerons des cyberguerres.
Mais d'abord, on reçoit Benjamin Muller. Bonjour Benjamin.
Bonjour Marion.
Vous allez bien?
Ça va et vous?
Très bien, merci. Alors, quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit « Je suis la cible idéale des hackers ». Mais pourquoi donc, Benjamin?
Parce que la technique, je parle bien de la technique de mon ordinateur, non seulement j'y comprends rien, mais en plus, ça me saoule grave. Et à mon avis, on est nombreux à être dans ce cas-là. On aime bien utiliser l'ordi. De là à savoir comment ça marche, c'est une autre paire de manches. Alors, en vous écoutant, on comprend bien qu'il faut faire attention et qu'il faut se protéger. Mais je sais pas, moi, j'arrive pas à l'intégrer. Un exemple tout bête, le mot de passe de ma session d'ordinateur ici à Europe 1, ça a été pendant de longues années Europe 1. Alors vous allez me dire, c'est un peu bête. Je suis tombé sur un article
vous
insistant.
Vous auriez pu prendre, oui, 1, 2, 3, 4.
Oui, ou... j'ai changé. Maintenant, j'ai mis RTL, là, au moins, il y avait beaucoup moins de risques. Parce que je suis tombé sur un article insistant sur l'importance de bien choisir ses mots de passe. Alors vous allez me dire, c'est vraiment bête de prendre des mots de passe si simples à trouver. Vous avez raison, mais comme dit l'adage, quand je me compare, je me rassure. Une étude a été publiée sur les mots de passe les plus utilisés au monde sur Google, Facebook, Yahoo, etc., etc. Le numéro 1, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'ailleurs, Marion, je crois que vous avez longtemps utilisé ce mot de passe qu'il va falloir changer maintenant. Et le numéro 2, c'est password, qui veut donc dire mot de passe en anglais. Donc bon, quand on dit qu'il faut éduquer les internautes à se protéger des hackers, il y a encore beaucoup de boulot. Tant mieux pour vos affaires. Alors cet article dont je vous parlais sur les mots de passe, je l'ai retrouvé. C'est un article du site France TV Info qui a interrogé un hacker repenti qui donc donne ses 4 conseils pour se protéger au maximum. Le conseil 1, c'est donc le mot de passe. Le conseil 2, je le lis tel quel, bien choisir son pare-feu et son antivirus. Alors là aussi, moi j'ai tout faux. Parce que quand j'ai acheté mon ordinateur, c'était il y a 2-3 ans dans un Apple Store, on m'a expliqué, monsieur, vous achetez un Mac, donc vous verrez les Macs, impossible d'avoir des virus, pas besoin d'antivirus, vous pouvez y aller. Il m'a dit, c'est aussi pour ça que l'ordinateur coûte un peu plus cher que les autres. Moi j'ai acheté comme un bonnet, et vous comprenez un peu la suite, pourquoi je dis que je suis pas très bon dans la technique des ordinateurs. Troisième conseil, éteindre son réseau Wi-Fi la nuit. Ça, je comprends. Le hacker explique qu'éteindre votre box peut éviter les intrusions sur votre réseau, et surtout que même si l'ordinateur est éteint, la connexion Internet reste vulnérable. Donc le soir, conseil bateau, on éteint tout, la box, la télé, la radio, l'électricité, on est sûr d'être tranquille. Et enfin, dernier petit conseil, celui qui fait le plus peur, on met du scotch sur sa webcam, et ça, c'est sans... Alors, il explique qu'avec un peu de technique, il est facile d'observer les gens via leur webcam, sans bien sûr qu'ils ne réalisent la chose. Ils installent un cheval de Troie sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur votre iPad,
et compagnie.
Et surtout, ils sont trop forts. Et ils voient tout ce que vous faites. Il existe même des sites où ils se partagent les photos volées des gens chez eux. Vous imaginez le délire. Alors moi, depuis que je sais ça, je ne me présente plus jamais devant mon ordi sans être rasé de près et habillé en costume cravate pour ne pas être ridicule. Bon, la conclusion de tout ça, revenons sérieux, c'est que malheureusement, le pouvoir des hackers est énorme. On l'a vu avec l'exemple d'Ulcan, bien sûr. Et on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Personne ne prend, par exemple, le métro ou le bus avec son sac grand ouvert et la carte bleu qui dépasse, c'est exactement la même chose. Plus de place aux naïfs, il faut désormais se protéger. Je pense qu'il y a encore pas mal de boulot pour sensibiliser les Français à ce sujet.
Nicolas Arpagian, vous êtes d'accord avec ça ?
Alors, certainement, c'est
tout
vrai
ce qu'il a dit est vrai,
tout ce qu'il a dit est vrai, et effectivement, on a des outils qui sont, mais aujourd'hui, avec un simple moteur de recherche, d'ailleurs, on voit beaucoup dans beaucoup de contentieux intrafamiliaux, des divorces ou des patrons qui cherchent à savoir si leur salarié respecte bien sa tournée, vous avez des petits outils, on vous dit juste, il faut une minute avoir le téléphone de votre cible, une minute entre les mains, ce qui arrive assez facilement dans la vie quotidienne. C'est indétectable, ça vaut quelques dizaines d'euros, ça permet de conserver l'intégralité des déplacements de la personne grâce au GPS, d'avoir l'intégralité de ses mails, de sa navigation sur Internet, de ses SMS bien sûr, et c'est surtout désactivable à distance. Alors, on est dans un produit dont la vente est licite, mais l'usage est illicite, vous apprécierez.
On a une idée si c'est beaucoup fait, ça, si il y a beaucoup de portables
alors,
en France qui sont comme ça
espionnés. Parce qu'il n'y a pas de prospection commerciale, la seule chose c'est que ces outils fonctionnent. Et donc à partir du moment où ils fonctionnent et s'ils sont commercialisés, on est vraiment dans une logique, s'il y a une offre, c'est parce qu'il y a une demande. Donc en tout cas maintenant, on voit un nombre croissant de contentieux, notamment des divorces, où maintenant il y a une documentation disons de la vie sentimentale de l'autre, de la partie adverse, à partir de ce type d'outils qui coûtent quelques dizaines d'euros, sont très simples à utiliser. Et c'est vrai qu'au moment où on a vu la discussion sur la loi sur le renseignement, où on a s'est interrogé sur le fait que des policiers, des magistrats pouvaient utiliser à des fins de lutte antiterroriste, on voit que dans beaucoup de particuliers, et il y a un usage qui est vraiment banalisé. Vous verrez des sites, si vous les cherchez sur des moteurs de recherche, qui sont très accessibles, écrits en français, avec une méthode. Non, mais il n'y a pas de technique, il n'y a pas de technologie. Et c'est vrai que par contre, c'est pour ça qu'après, il faut trouver des solutions de contournement. Pierre Aski évoquait le fait qu'on sature son site internet de manière à le rendre hors d'état de fonctionner. Aujourd'hui, je pense à une solution justement que Orange propose, qui est de dire on va détourner le flux illicite de manière à laisser les utilisateurs légitimes se connecter. On peut le faire, pourquoi ? En utilisant une analyse des gens qui naviguent sur Internet et de comparer les flux illicites des flux licites.
Question très concrète pour revenir sur les portables. Est-ce que toutes les marques de portables sont aussi vulnérables ou est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus
Ah, ça n'a rien à voir, c'est le fait qu'ils soient connectés à Internet.
Ouais,
dès lors qu'ils sont connectés à Internet.
Si c'était pour dire ça.
Non, mais ce vendeur de chez Apple, je m'en souviens, il m'avait dit les Macs, c'est impossible
non,
de les...
Non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'Apple représente 5-6% du marché. Et donc, il est logique que quand vous êtes un industriel du piratage, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous essayez de faire un logiciel qui va fonctionner, s'épanouir, prospérer dans 94% du marché. Et une fois que vous avez bien, bah, vous adressez ce marché de 5% avec des gens plutôt solvables, puisqu'ils achètent leurs ordinateurs plus chers dans un deuxième temps. Et donc, c'est pour ça que, évidemment, ils sont exposés au risque au même titre que les ordinateurs, les PC notamment.
Merci Benjamin, merci à vous deux pour ces explications. Vous restez avec nous, va-t-on tout droit vers une cyberguerre contre Daesh notamment? Et quel sera le rôle des hackers? C'est juste après Virtual Insanity, comme le chantait déjà Jamiroquai en 1996. Et c'est sur Europe 1 aujourd'hui.
15h-16h sur Europe 1.
Il n'y en a pas deux comme elle.
Les hackers, comment procèdent-ils? Sont-ils si dangereux et comment s'en préserver? Voilà toutes ces questions et on parle de cyberguerre avec vos invités Marion.
L'expert en cybersécurité, justement Nicolas Arpajan et le journaliste cofondateur du site Rue89, Pierre Aski. Alors Nicolas Arpajan, déjà est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une cyberguerre? Est-ce que la plupart des guerres aujourd'hui sont des cyberguerres?
Alors on n'est pas dans la définition de la guerre telle qu'on l'a conceptualisée avec ce qu'on appelle le droit des conflits armés. Par ailleurs, il s'avère en tout cas qu'aujourd'hui tous les conflits connaissent un volet numérique. Alors d'une part dans la partie tuyau, en quelque sorte, pourquoi? Parce que tous nos systèmes d'armes, des armées modernes, les systèmes de pilotage, les systèmes de commandement, les systèmes de transmission d'informations sont numérisés et fonctionnent avec de l'informatique. Donc ça c'est la partie tuyau. Ensuite il y a la partie contenu qui est très importante, soit pour des campagnes d'agit-prop, en clair pour jouer sur les opinions publiques, lorsque l'on commence à diffuser des images de massacres, lorsque l'on commence à modifier les pages d'accueil de sites internet ou de comptes Twitter, comme on l'a vu avec des conflits au Moyen-Orient, lorsque effectivement on essaie de rentrer en contact avec des soldats, on parlait de l'armée israélienne, on a vu manifestement que il y avait certains soldats de l'armée israélienne qui s'étaient fait leurrer par une soi-disant jeune fille qui, comme par hasard, n'avait sur Facebook que des amis qui étaient de jeunes soldats israéliens, et en fait elle en profitait pour capter, et c'était évidemment pas une jeune fille, capter des informations sur les mouvements de troupes et faire en sorte de récolter ainsi de l'information. On voit maintenant que toutes les armées ont développé des unités dédiées à la surveillance des réseaux sociaux et à l'alimentation de ces réseaux sociaux.
Alors parlez-nous par exemple des islamistes de Daesh. Eux aussi font la guerre via Internet et le hacking.
Alors, la guerre pour Internet, déjà, pourquoi? Parce que c'est un lieu de revendication, c'est un lieu donc de prosélytisme, c'est un lieu de collecte de fonds, et c'est un lieu de pédagogie. Apprendre à avoir des tutoriels, vous savez, ces petites vidéos où on vous explique comment justement partir en Syrie, éventuellement comment les explications qu'il faut donner à la famille au moment où celle-ci se méfie. Il y a toute cette phase, hélas, de pédagogie qui est très présente sur Internet et qui permet, à partir d'un point d'émission unique, d'atteindre un public large. Et donc, effectivement, c'est très efficace. Donc ça, c'est toute la partie contenu. Ensuite, il y a la possibilité de mener des attaques, on l'a vu avec TV5 Monde, pour appuyer dans l'opinion publique le fait que, justement, on peut porter le conflit, en quelque sorte, au plus près des individus. On l'a vu au début de l'année 2015 avec la modification de site internet du mémorial de Caen, d'un très grand nombre de collectivités locales en France. Ça n'a pas d'impact militaire, par contre, c'est de faire en sorte que chaque ressortissant français, en l'espèce, se dise « Tiens, près de chez moi, ils sont capables de porter des coups et donc de jouer sur le moral de l'opinion publique. »
Pierre Aski, quand le site de TV5 Monde a été attaqué, on a beaucoup dit que c'était Daesh.
Oui,
c'est vrai, c'est pas vrai.
Alors, franchement, on n'en sait rien. Le problème, c'est qu'au début, on a dit Daesh parce que ça semblait cohérent avec le contexte international de l'époque et puis certaines menaces qui avaient été proférées. Depuis, les opinions ont changé. Maintenant, on parle d'une piste russe et c'est tout le problème de la cyberguerre, c'est qu'elle est très difficile à attribuer. C'est la grande différence avec la menace nucléaire lorsqu'elle existait autrefois. Les Américains étaient capable de savoir précisément si un tir de missile se faisait de Russie, de Chine ou d'un autre pays parce que satellite, radar, etc. Là, on est dans ce flou qui empêche véritablement les représailles. Si vous êtes attaqué et que vous ne pouvez pas dire qui vous a attaqué, votre dissuasion est extrêmement limitée. Ce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, parce qu'on est beaucoup dans les scénarios hollywoodiens, c'est que il n'y a pas encore eu de véritable cyberguerre. On a des guerres dans lesquelles il y a une dimension Internet. Il y a eu le cas de l'Estonie qui est considéré comme la première cyberguerre où la Russie, puisque c'est vraisemblablement la Russie, a saturé tout le réseau de l'Estonie pendant 3 jours. Il était impossible de retirer de l'argent d'une banque, de procéder à tout un tas d'opérations.
Mais, alors justement, Nicolas Arpajon, est-ce qu'en France, il y a un moyen, il y a une cellule au ministère de la Défense pour se protéger
alors,
de ces cyberattaques?
Il y a deux entités. Il y a l'ANSSI, l'Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d'Information, qui vous trouvez sur le site ssi.gouv.fr, qui a pour vocation de protéger l'infrastructure du ministère donc du gouvernement, et également de ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale. Il y en a une centaine à peu près, grandes entreprises, distributeurs d'eau, d'énergie, etc. Les banques également. Donc ça, c'est le rôle protecteur. De l'information, des systèmes d'information, c'est l'ANSSI. Ensuite, à l'état-major des armées, il y a un officier général en charge de la cyberdéfense, qui est un vice-amiral, dont le rôle est justement de décliner le volet militaire sur les théâtres d'opération. Il a justement, il est auprès du chef d'état-major des armées, et il a donc toute une chaîne de commandement cyber de manière à mener l'offensive et également la protection des infrastructures militaires. Et un volet tout à fait opérationnel également de la DGSE, qui est un peu comme les nageurs de combat, portent des coups et qui ont vocation à mener des opérations offensives sur Internet.
Pardon de vous interrompre, Nicolas Arpajon, mais on a vu récemment qu'il y a un gamin qui a réussi à détourner un drone en Syrie. Enfin, en tout cas, il a réussi à se glisser dans ce drone, à voir les images de chez lui en Amérique. Il y a quelques mois, un type a réussi à prendre partiellement le contrôle d'un avion. Donc le jour, on peut imaginer que le jour où un groupuscule terroriste y arrivera, est-ce que tout ça servira à quelque chose?
Alors c'est pour ça qu'il est très important de s'appuyer sur des prestataires dits de confiance. C'est-à-dire d'une part, il y a des exercices d'entraînement pour se dire comment est-ce qu'on peut fonctionner dans un monde dégradé. Dégradé, ça veut dire quand vous n'avez soit plus confiance dans certains systèmes, soit ceux-ci ne sont plus opérants. Ensuite, il faut faire en sorte de pouvoir revenir à une situation normale le plus rapidement possible. Les psychiatres parlent de résilience. Vous savez, vous avez subi un traumatisme. L'idée, c'est vous ne pouvez pas empêcher ce traumatisme, mais vous faites en sorte de revenir à une situation normale le plus rapidement possible. Et enfin, c'est de faire en sorte de détecter le plus rapidement possible le fait que vous faites l'objet d'une attaque. Pourquoi ? Parce que dans le cyber, vous pouvez ignorer votre statut de victime.
Mais donc tout ça, on l'apprend aux pilotes de chasse, quoi. On leur dit.
Alors, c'est pas totalement au niveau des pilotes de chasse, mais au niveau de l'état-major des armées, effectivement, d'intégrer ce volet-là de manière à ce que ces équipements, au moment où on appuiera sur un bouton, que ce soit bien l'ordre qui a été décidé dans les modalités qui ont été décidées, qui soit opéré, et pas quelque chose décidé par un pirate loin de là.
Alors, vous restez tous les deux avec nous. On marque une courte pause et juste après, on écoute vos témoignages et vos réactions au 3921 ou sur la page Facebook de l'émission et via Twitter, hashtag P2CE.
Il n'y en a pas deux comme elle.
De 15h à 16h sur Europe 1.
Jusqu'à 16h, on parle des hackers. Vous pouvez bien sûr poser vos questions sur le site europe1.fr qui va très bien d'ailleurs. C'est au 3921 et sur Twitter avec le hashtag P2CE. Des réponses des invités de Marion Ruggieri.
Mais avant d'écouter vos questions, vos réactions sur le sujet, on écoute un extrait de War Games, carton au box-office de 1983 et film préféré de notre réalisateur Thomas Caillé. C'est un des premiers films sur le piratage informatique où un jeune ancêtre de hacker pirate le système de sécurité américaine. Vous allez voir, c'est vintage.
Le gosse a bel et bien piraté le système de défense sous-marine en utilisant le mot de passe implanté par le concepteur du programme.
Le mot de passe ?
Parfaitement. Et personne dans mon équipe n'en connaissait l'existence.
Le gamin dit qu'il cherchait une firme de jeu.
Alors ça, c'est la meilleure.
Il dit qu'il fait tout ça par amusement.
J'ai réveillé le président pour lui dire qu'on était attaqué par les soviétiques.
Non, je vous en prie, reprenons-nous, messieurs, ne faisons pas preuve de naïveté. Je dis qu'il est impossible qu'un jeune con puisse téléphoner de n'importe quelle cabine et pénétrer notre système. Ce gosse doit travailler avec un tiers, c'est obligatoire.
Justement, Lightman a le profil du parfait agent, intelligent mais sans résultats scolaires. Laxisme des parents, peu d'amis, c'est la recrue idéale pour les soviétiques.
Ah déjà, les soviétiques, ça ne nous rajeunit pas. Alors, comme tous les jours à 15h50, c'est la séquence, il n'y en a pas deux comme vous. Vos questions, vos réactions sur Twitter. Chloé nous dit, si on peut pirater un pacemaker, est-ce qu'on peut pirater un appareil auditif?
Alors, ça dépend en fait de l'équipement. Alors, je suis pas un spécialiste des appareils auditifs, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans forcément.
Mais de cybersécurité, je le rappelle.
C'est-à-dire, je suis voilà, donc n'étant pas moi-même utilisateur.
Mais tout à l'heure, vous nous avez dit pendant
contre,
la truc qu'on pouvait pirater.
S'il y a une connexion, en fait, ce qu'il faut, c'est que est-ce qu'il y a une connexion avec l'envoi de données à l'extérieur. Donc c'est ça qui permet, qui constitue en quelque sorte la porte d'entrée pour avoir une infection informatique.
Mister Négatif nous dit, la législation française actuelle est-elle suffisamment armée pour protéger les particuliers des hackers?
Alors, pour les protéger, en tout cas, il y a, depuis 10 ans, on a fait une loi par an. Donc la créativité législative, il faut peut-être même mettre un petit frein. La difficulté, en fait, c'est après que l'attaque, le particulier soit informé que l'attaque est intervenue, de manière à ce qu'il lui permette de se protéger. protéger, de changer ses identifiants, mais également c'est l'imputabilité pour éventuellement sanctionner l'entité qui serait responsable de cette attaque. Aujourd'hui, c'est difficile en raison de la faible coopération internationale sur le sujet.
Pierre Aski.
Et au-delà des lois, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les comportements individuels qui sont en cause, c'est-à-dire la prise de conscience du fait que chacun d'entre nous, dans ses comportements, est à la fois une cible et est dans une position de risque.
Justement, Maxence vous demande, est-ce que vous aviez conscience du pouvoir des hackers avant ces terribles faits ? Est-ce qu'on devient parano après ça ?
Alors, j'en étais pas conscient à ce point-là. J'en étais conscient intellectuellement et tout d'un coup, j'ai vu ce que ça pouvait donner concrètement. Et je pense qu'il faut avoir vécu cette expérience pour le comprendre réellement. Non, je suis pas parano, mais c'est vrai qu'on a pris un certain nombre de mesures de défense du site et de comportement individuel que nous n'avions pas précédemment.
Caroline nous dit, est-ce qu'il est possible de tester son iPhone pour savoir s'il est hacké ?
Alors non, parce que en général, les applications qui sont utilisées justement pour mener des opérations d'interception n'apparaissent pas dans le menu des applications disponibles dans la bibliothèque du téléphone. Par contre, il existe des solutions. Alors, il y a un opérateur télécom Orange propose à ses abonnés de tester leur adresse IP de manière à voir si elle est infectée ou pas, si elle fait partie des réseaux qui ont été contaminés et qui ont participé à des attaques. Puisqu'en clair, quand votre ordinateur est utilisé pour mener une attaque comme celle qui a paralysé le site Rue89, en fait, vous pouvez continuer à utiliser votre machine. C'est juste qu'elle est moins puissante puisqu'il y a une partie de sa puissance de calcul qui est sollicitée, un peu comme le cerveau gauche, cerveau droit. Votre cerveau droit continuerait à répondre à vos questions, tandis que le cerveau gauche, en quelque sorte, obtempérerait aux ordres qui sont donnés par le pirate.
Mais Nicolas Arpachon, la solution, c'est quoi ? C'est d'avoir un vieux portable d'il y a 15 ans ? C'est de ne pas avoir d'Internet ?
Non, alors effectivement, c'est en tout cas...
De mettre des bouts de scotch sur tout ce qui traîne.
C'est la rusticité. C'est vrai que, par exemple, de pas avoir de télécharger sur des sites dont effectivement vous voyez que manifestement ils sont truffés de ils ont toutes les apparences de quelque chose d'illicite. Alors c'est très difficile de donner des éléments descriptifs, mais plus vous irez sur des sites qui justement ne sont pas légitimes, émis par des éditeurs ayant pignon sur rue et dont éventuellement on pourrait mettre en cause la responsabilité, plus effectivement c'est l'occasion d'avoir des contaminations. Prenons l'exemple de tout ce qui est gratuit, par exemple, c'est vrai que par essence, ben oui, parce qu'il y a bien un modèle économique au-delà de la publicité, ça peut être l'occasion, on va voir bientôt là, les fêtes de Noël, ces cartes de vœux gratuites, vous ne savez pas quelle est la nature du logiciel que vous téléchargez, d'une part en captant ces cartes de vœux, mais surtout en les envoyant à vos amis et connaissances qui seront intéressés par les ouvrir parce qu'elles viendront de vous, émetteurs légitimes, et sans savoir du tout ce qui compose le code avec toutes les capacités d'infection qui les accompagnent.
Donc se méfier des cartes de vœux gratuites, Pierre Aski. Adrien nous dit, comment protège-t-on les portables des ministres, du président et des très grandes entreprises? On l'a vu récemment, mal.
Alors, il y a deux types de téléphones. Il y a les téléphones, en fait, les informations ministérielles sont protégées avec, justement, le confidentiel défense, le secret défense et le très secret défense. On a toute une hiérarchie de secrets. En clair, il y a des téléphones grand public. C'est un téléphone Samsung qui protège celui du président de la République, des 400 collaborateurs de l'Élysée et, justement, des autorités, qui est protégé avec une solution de chiffrement d'un prestataire français. Il s'appelle c'est Orange et Aircom, et ça protège de manière jusqu'au niveau confidentiel défense. Et ensuite il y a un téléphone chiffré qui est fabriqué par Thales et qui fonctionne très bien. La seule chose, c'est qu'il a une latence, c'est-à-dire que quand vous composez le numéro, il faut attendre une petite minute avant que la prise de la ligne, vous n'avez pas d'application.
MUES 1418.
Voilà, mais par contre c'est robuste et la difficulté c'est de faire en sorte que les autorités l'utilisent. C'est pas la robustesse qui est mise en cause, c'est le fait qu'effectivement on a un certain nombre d'autorités qui ne prennent pas forcément le temps de l'utiliser. C'est pour ça qu'il y a cette solution de ce smartphone grand public, en l'espèce Samsung, qui fonctionne pour les sujets jusqu'au niveau secret défense.
Enfin, Jérôme nous demande, Pierre Aski, est-ce que les infos secrètes étaient mieux gardées à l'heure du tout papier ?
Elles étaient, je ne sais pas si les pigeons voyageurs étaient plus efficaces. On pouvait toujours les intercepter, les abattre et
les manger
et récupérer les messages. Non, mais il est clair qu'aujourd'hui, on a à la fois une sophistication extraordinaire et donc une prise de risque beaucoup plus grande parce que la sophistication d'un côté appelle la sophistication de l'autre et donc les enchères ont monté.
Et maintenant, vous protégez mieux votre site ?
Alors le site est beaucoup mieux protégé. Individuellement, c'est pas encore tout à fait au point. On est conscient qu'il faudrait en faire beaucoup plus. Mais comme ça vient d'être dit à propos des téléphones, il y a une part fastidieuse à chiffrer, à passer tout un tas de choses comme ça qui font que beaucoup de gens ne le font pas.
Juste une question de Maxime. La Troisième Guerre mondiale sera-t-elle une cyberguerre?
Alors, en tout cas, elle aura des volets numériques de plus en plus intensifiés, que ce soit pour l'immobilisation. Avant, lorsque dans le combat aérien, on essayait justement de mettre par terre des avions, là, on va faire en sorte de les empêcher de décoller. Pareil pour des systèmes d'armes. C'est-à-dire qu'on fait en sorte effectivement de neutraliser l'adversaire, ce qui est un impact supplémentaire pour les opinions publiques, parce qu'on leur dit, vous voyez, votre armée qui a essayé de vous protéger est démunie, donc vous, population, vous n'êtes pas forcément en mesure de résister. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y aura un volet numérique à la hauteur de ce que nous confions au numérique dans nos vies professionnelles, personnelles et forcément dans les administrations et les forces armées.
Nicolas Arpajon, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir fait si clair et avec tant de célérité. Je renvoie nos auditeurs à votre essai « La cyberguerre, la guerre numérique a commencé » aux éditions Vuibert. Et puis vous avez aussi...
Que sais-je sur la cybersécurité, donc pour comprendre les enjeux en termes
simples. Que sais-je sur la cybersécurité, Pierre Aski, merci. Et à très bientôt, j'espère. On vous retrouve sur le site d'information rue 89, évidemment. Et on se retrouve, nous, demain, de 3 à 4, il n'y en a pas deux comme elle, pour répondre à cette question. La cuisine peut-elle nous sauver la santé et le moral? D'ici là, je vous souhaite un excellent après-midi avec Cyril Hanouna.